Il s'agit de rendre compte de l'action féministe des enseignantes militantes. Pour quelles raisons? C'est parce que elle permet d'interroger la profession enseignante autrement que du seul point de vue donc de l'inertie des stéréotypes sexués qu'on vient largement de voir et dont on vient de prendre toute la mesure, y compris dans la période hyper récente. Donc pour moi, il s'agit donc de mettre l'accent sur la part que cette profession, la profession enseignante et les femmes dans cette profession ont toujours pris dans le mouvement d'émancipation des femmes sur la longue durée. Alors, la maîtrise de la parole est un enjeu fort des rapports sociaux de sexe. Hein, on l'a vu à propos des femmes et la politique, la question de la parole écrite, de l'édition, de la signature en tant qu'auteur. Mais en même temps, c'est ce qui va expliquer la place particulière de ce groupe professionnel dans le mouvement d'émancipation des femmes sur la longue durée. Alors, apprendre à lire la sexuation dans et par l'école est en réalité l'objet des enseignantes militantes de l'égalité entre les sexes. Alors bon, très rapidement, je rappelle qu'on sait que malgré tout, ça n'est que très récemment qu'une lecture des faits sociaux en termes de rapports sexués s'est imposée dans la recherche. Et ça, par exemple, donc Catherine Marie, Jacqueline Lofer, Margaret Marwani nous le rappellent, c'est que c'est un phénomène récent. Et donc, ce savoir constitué dans la recherche est reconnu comme une spécialité scientifique, eh bien, va se trouver dans l'école diffusée par les enseignantes militantes. Donc, pour moi ici, je vais me centrer sur la restitution de leur méthode, leur modèle d'action et leur méthode pédagogique qu'elles développent auprès de leurs collègues. Alors bon, très rapidement, je m'appuie donc sur toute une série d'enquêtes. L'information principale est étayée donc par une enquête qui a été menée en 2010 auprès de 23 enseignants militants et responsables syndicaux. Donc ce sont des entretiens, des enseignants engagés du premier et du second degré du public. Et il s'agit de récits de vie. Une enquête menée en 2010, donc là c'était une observation directe, donc 6 heures d'enregistrement d'une réunion du secteur femmes de la FSU. Pourquoi la FSU? C'est parce que c'est le syndicat majoritaire des enseignants. Une enquête en 2010, donc là il s'agissait d'une exploration des archives de l'ensemble des numéros pour info, de 2005 à 2010, donc là il s'agit d'une analyse de contenu classique, et puis une enquête en 2010 où là j'étais en observation participante dans une équipe de direction dans un collège où se discutait un problème de mixité. Alors, cette information principale est étayée également par des enquêtes complémentaires menées auprès de 338 enseignants, un questionnaire donc sur la question de la mixité. En 2005-2006, 1576 enseignants, un questionnaire où là, il s'agissait d'interroger les enseignants sur le monde du travail et la qualité de vie, la question des valeurs. Et puis, en 2009, j'ai exploré la base de données historique donc du Métron. Donc, il s'agissait pour moi de regarder la place des enseignantes dans le mouvement ouvrier. Et puis, enfin, j'ai exploré en 2010 les archives personnelles d'une professeure de philosophie pendant la Seconde Guerre mondiale, une professeure à Caen, qui a été à Caen. Donc chez vous. Alors, donc en gros, les sources utiles, c'est 8 enquêtes avec plusieurs méthodologies croisées, enquête quantitative, analyse de contenu, entretien, récit de vie, observation directe et observation participante. Alors, tout d'abord, avant de comment dire, de discuter, de vous présenter ce que j'ai observé concernant les enseignantes militantes, il faut quand même rappeler un tout petit peu l'état du contexte. Alors, le contexte en moyenne dans la profession, donc parmi les nombreux obstacles, un des verrous va résider dans l'insensibilité moyenne hein, aux situations sexistes de la profession enseignante. Alors, je vais vous le présenter ici seulement selon trois points d'observation. Donc, une question qui ne se pose pas, l'inégalité des sexes dans la formation des enseignants, une pratique qui est inconsciemment sexuée et la cécité à la stéréotypie sexuée des métiers. Alors, là, les enseignants, lorsqu'ils sont interrogés, voilà ce qu'ils répondent. La question de l'inégalité des sexes dans la formation des enseignants, pensez-vous que ce soit un aspect tout à fait essentiel, assez important, sans objet depuis la mixité? Donc là, vous vous apercevez que la colonne sans objet depuis la mixité est très bien fournie, mais elle est particulièrement bien fournie pour les femmes. Ensuite, à la question, pensez-vous que les manuels scolaires sont neutres? Et donc, là, vous vous rendez compte que la colonne, oui, est également assez bien fournie, donc alors que ça contredit tout à fait ce qui a été démontré précédemment. Donc, les manuels scolaires sont neutres pour une partie non négligeable des enseignants hommes ou femmes. Et parmi ceux qui disent non, les hommes sont plus nombreux, significativement un peu plus nombreux que les femmes, à être conscients que ça n'est pas neutre. Donc, c'est une information essentielle de se rendre compte que les femmes elles-mêmes hein, ne sont pas plus armées, disons, pour ressentir des situations sexistes. Alors, c'est également une pratique... la pratique professionnelle de l'enseignement est une pratique qui se réalise de façon un peu inconsciemment sexuée. Alors, pensez-vous que les jeux traditionnels, billes, marelles, cordes, sont des jeux sexués? Donc, vous voyez que là, une majorité, un nombre important d'enseignants, hommes ou femmes, sont dans la colonne « oui », donc ils disent oui, ils sont sexués. Là encore, on s'aperçoit que les hommes, plus que les femmes, répondent qu'il y a des jeux sexués. Et ensuite, dans la question suivante, vous avez avec quels élèves vous sentez-vous plus à l'aise, plus complice hein, ça renvoie aussi à des souhaits de classe, de composition de classe. Eh bien, vous voyez que il y a une attirance sexuée. Les hommes sont plus attirés par des classes essentiellement composées de garçons et les femmes par des classes essentiellement composées de filles. J'en viens à la question des professionnels, les enseignants, devant donc la question des métiers. Alors, j'ai utilisé un sondage Sofres comme une expérience. Alors, il s'agissait pour les répondants de dire quel degré de prestige ils accordaient à toute une liste de professions hein, qui étaient proposées. Il y en avait 25. Toutes les professions proposées étaient proposées dans leur version masculine, sauf pour une, l'infirmière. Donc, vous comprenez pourquoi, ça n'est pas mon questionnaire, c'est une réplique d'un sondage qui, par ailleurs, est parfaitement sexiste. Et donc, j'ai exposé les enseignants à cette liste. Donc, on va regarder donc comment ils répondent. Alors, ici, vous avez figuré les réponses des enseignants avec, en haut, à gauche, les réponses qui renversent, si vous voulez, la hiérarchie sociale des professions. Et vous le voyez, hein, ils mettent que ouvrier est très prestigieux. Cet ensemble qui est en haut est essentiellement masculin. En bas, vous avez des réponses d'enseignants où là, ils disent que bon, homme d'affaires, c'est prestigieux, chef d'entreprise, c'est prestigieux. Donc, ils reprennent la hiérarchie des professions, hein, selon un certain conformisme. Donc vous avez une attitude conformiste, une attitude critique et exprès anticonformiste. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand on va plus loin, c'est-à-dire dans l'observation de ce que, comment dire, des réponses ouvertes, hein, des réactions et des réponses ouvertes, on s'aperçoit que ceux qui sont donc anticonformistes vont complètement critiquer les catégories, la question même du prestige, etc. Et ils en font voilà, des tonnes, hein, et ils contestent, etc. Mais à aucun moment, donc il y avait quand même 1576 enseignants dans cette affaire, avec, et c'est, donc c'est pas un questionnaire représentatif, c'est un questionnaire qui est exprès, qui a été donc moitié-moitié homme-femme, pour vraiment avoir la comparaison possible. Aucun n'a relevé qu'il y avait un seul nom infirmière. Alors, la stéréotypie sexuée des métiers se lie à travers les différences significatives entre les enseignants et les enseignantes, dont ici vous avez une synthèse. Et alors, ce qui saute aux yeux, hein, c'est d'une part les enseignants qui accordent beaucoup de prestige à l'infirmière, et là, on est tout à fait dans dans l'idéologie du care la recherche perpétuelle de la maman qui soigne. Les femmes enseignantes, elles accordent beaucoup de prestige aux hommes d'affaires, avec là aussi, hein, sans s'en rendre compte, en étant dans ce conformisme, représentation tout à fait classique, hein, de l'homme qui détient le pouvoir. Donc, ce sont ces femmes et ces hommes en tant qu'enseignants qui vont en portant, hein, ces représentations et ces valeurs, incarnent l'école et tout ce que ça suppose de rapport au savoir, au manuel, etc., et aux valeurs devant leurs élèves. Alors, donc là, j'ai fait un petit peu le tour, un petit tour rapide, hein, des obstacles qui existent bien dans la profession. Et maintenant, je vais passer à l'aspect donc qui est le cœur de mon intervention aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-on malgré tout dépeindre de façon juste cette profession comme uniquement résumée par tous ces obstacles, ces stéréotypes sexués. Donc, je vais maintenant plutôt regarder les enseignantes féministes qui, comme je le disais en introduction, vont utiliser la pédagogie qui est un trait, qui est le cœur du métier, hein, de ce métier-là et pas d'autres métiers, pour promouvoir l'égalité des sexes à l'école. Alors, leur méthode pédagogique est une sorte donc de trait professionnel, hein, on dirait de défaut professionnel. Il faudrait voir aussi si pendant la retraite ça continue. C'est une hypothèse que je compte tester. Donc, ce trait professionnel, eh bien, ils vont l'utiliser pour l'éducation de leur père. Et donc, là, je vais vous présenter 5 points. Donc, comment elles vont éduquer leur regard in situ, comment il va s'agir de donner une leçon à l'institution scolaire, porter la voix des femmes dans le syndicat, l'organisation syndicale, apprendre à leur père à compter et enfin contrôler la langue, la parole et le langage. Alors, pour éduquer le regard in situ, donc il s'agit donc de l'éducation des collègues à un regard aiguisé par le genre, et cette éducation emprunte, hein, la voie du décryptage systématique des situations concrètes dans lesquelles ces enseignantes sont plongées aux côtés de leurs collègues. Alors, là, je cite, hein, mon malheur au quotidien et encore plus en tant que syndicaliste, c'est que l'école renforce les inégalités sociales et celle au niveau sexuel, c'est une évidence. Et je me souviens avoir entendu, y compris des formateurs, tenir des propos qui me font Alors, c'est surtout vrai à l'école maternelle. Le tri, par exemple, faire des catégories en maternelle, j'ai vu en stage, on va trier les jouets de garçons, les jouets de filles. Et j'écris ma lettre au Père Noël tous les ans avec le catalogue Toys R Us, où ils mettent les jouets de filles, les jouets de garçons. Et maintenant, nous, à l'école, on est en train de renforcer. Donc là, c'est une parole d'un enseignant qui est relativement jeune, hein, il a environ 35 ans. Donc c'est un témoignage de l'école d'aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, il s'agit aussi d'apprendre à lire les situations d'échecs scolaires et de violence en collège. Ça se révèle crucial, hein, dans la lutte contre les stéréotypes. Alors là, il s'agit d'un dialogue que je vous restitue qui a lieu dans un collège. Un dialogue entre un principal de collège et une enseignante féministe. Alors, voici ce que dit le principal de collège. « Moi, ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est la surreprésentation des filles dans ce collège. C'est vraiment un collège féminin. » Question, quels sont les effectifs? Donc ça, c'était moi qui posais cette question. Quels sont les effectifs? Il fait sortir donc les effectifs sur son ordinateur. Et voilà la réponse. « Là, je viens de sortir les effectifs. Eh bien non, c'est l'inverse. Il y a plus de garçons que de filles. Il y a 204 garçons et 166 filles. » Et là, l'enseignante féministe lui dit « Vous avez lu Les Crapuleuses ?» Alors, l'explication que je vous dois, c'est que la question de la surreprésentation des filles est posée dans ce collège parce que les filles posent des problèmes, ont posé des problèmes, notamment de comportement, à donc l'équipe de direction qui est une équipe masculine. D'où l'intérêt pour eux de lire les Crapuleuses de Stéphanie Ruby. Alors, ensuite, pour les enseignants militants, donc là, on retourne dans le premier degré, plus exactement en maternelle. Il s'agit aussi d'éduquer les inspecteurs. Donc, en 1986, il y a eu un inspecteur qui a dit aux collègues hommes avec ses élèves de 2 ans, « Monsieur, votre temps de travail aujourd'hui, ça a été 10 minutes en 1 heure. » 1 heure et demie. Tout ça parce qu'il avait organisé un goûter, il avait chanté, il était passé aux toilettes. Bon, il a dû compter les instants de peinture et de coloriage, les trucs de jeu, c'est tout juste s'il les a comptés dans le travail de l'école maternelle. Il avait écrit ça dans son rapport. On a fait tout un travail pour lui démontrer que c'était le travail. Ce qu'était le travail, on avait filmé une journée, on a écrit noir sur blanc ce qu'on faisait et ça nous a servi aussi pour les parents. Donc, en réalité, là aussi, c'est un collègue qui est actif, qui, dès l'UFM, s'est spécialisé sur les tout petits, les 2 ans. Il est devenu maître formateur, conseiller pédagogique, enfin bref, c'est sa passion. Et tout s'est bien passé avec les collègues, etc., y compris avec les parents qui, bon, parfois posaient quelques difficultés et qu'il fallait convaincre. Mais la difficulté majeure qu'il a rencontrée, c'est donc avec cet inspecteur, parce qu'il avait quand même un sale rapport et donc une très mauvaise note, donc un arrêt brutal dans le déroulement de sa carrière. Et là, donc, les enseignantes féministes sont montées au créneau pour faire tout un travail très intéressant, hein, un travail pédagogique, à la fois donc pour éduquer les inspecteurs, mais aussi pour en profiter pour éduquer les parents. Donc il y a eu, quand elles disent, on a écrit noir sur blanc, hein, ça a été vraiment un très joli rapport avec toutes sortes de photos, d'explications, ce qu'était le cœur du métier, l'activité de travail de la maternelle. Alors, en termes de sociologie des professions et sociologie du travail, ça dit aussi quelque chose de très important. Ça dit que cet inspecteur qui inspectait des enseignantes depuis un moment, puisqu'il y a 90% de femmes en maternelle, 10% d'hommes. Jusqu'à présent, il trouvait que le goûter, etc., c'était du travail, entendez, du travail de femmes. À partir du moment où il rencontre un homme faisant cette activité, eh bien, ça n'est plus un vrai travail. Voilà. Alors, pour ces femmes, il s'agit aussi de porter la voix des femmes dans le syndicat. Il s'agit d'éduquer les militants qu'elle rencontre. Et donc, c'est pour ça que j'ai été aussi poursuivre l'observation dans leurs publications, mais aussi dans leur secteur femmes hein, qu'elles ont monté au sein de la FSU, à côté d'un certain nombre de secteurs, politique internationale, etc. Et alors, ce secteur est majoritairement composé majoritairement de femmes, mais c'est complètement ouvert. Et donc, il y a un homme qui s'intéresse à cette question. Bon, elle souhaite qu'il y en ait plus hein, et travaille auprès d'elle. Alors, voici ce qu'elles disent. À la FSU, on a pas mal travaillé sur des enquêtes à propos des temps de parole. Donc, ça, c'est lors des congrès. Hommes-femmes. On remarque qu'au début, la parole est à peu près égalitaire dans les milieux militants. Et puis, très vite, les femmes se taisent parce que les hommes adorent la redondance et du coup, les femmes se détachent. Dans une assemblée mixte, dans la FSU, c'est en fait à 70% une assemblée d'hommes qui passent leur temps à parler et à redire les mêmes choses. Donc, elles ont mis en place un système qui s'appelle donc le principe de la fermeture éclair dans les débats. Donc, voilà l'explication du principe. À chaque fois, on intercale un homme, une femme, et en comptant aussi le temps de parole, et de la même façon, des personnes qui n'ont jamais pris la parole et ceux qui la prennent tout le temps. C'est quelque chose qui maintenant fonctionne bien en réunion, mais aussi dans des assemblées plus importantes. Alors qu'au départ, ils étaient persuadés que c'était vraiment une espèce d'utopie de vouloir organiser et c'est maintenant c'est devenu quelque chose de tout à fait dans les mœurs. Alors il s'agit aussi d'apprendre à leur père à compter. Alors voilà un témoignage donc d'un enseignant. Donc là il s'agit du travail de militant dans la vie quotidienne de la défense de l'école. Tu vois, ta question, elle m'a paru complètement farfelue tout à l'heure. Il y avait combien d'hommes, combien de femmes? Comme si c'était un élément. J'en sais rien. Je t'ai dit certainement à l'image de la profession. Je vais dans un lieu, je ne me pose jamais cette question. Il faut que je le fasse. Nina, elle est là. Il y a une délégation qui monte en préfecture. Elle sait combien il y a de gars, combien il y a de filles. Il n'y a toujours que des gars. Dans le meilleur des cas, il y a une représentante. Ben ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas choquant. Elle va peut-être être la seule à le remarquer. Il y a des choses qui se sont totalement banalisées que l'école va reproduire. Donc en fait, c'était lors de l'entretien du récit biographique. Il me raconte donc une lutte. Bon, il devait monter en préfecture. Donc je lui dis bon, il y avait combien d'hommes, combien de femmes. Et il dit bien. Et en fait, il y a eu tout un temps. C'est-à-dire que c'est à la fin de l'entretien qu'il s'est rendu, qu'il a eu envie, voilà, de revenir là-dessus. Et donc là, il témoigne hein, quand il parle de Nina. Donc c'est une responsable au niveau national du secteur femmes. Donc il s'agit aussi de contrôler la langue, la parole et le langage. Donc la prise de parole égalitaire entre les sexes, on l'a vu, mais aussi il y a un souci hein, concernant la féminisation des textes et le contrôle du langage en situation pédagogique. Il faut qu'on s'astreigne à contrôler des tics de langage, aussi bien quand on parle que quand on écrit. Si on ne passe pas par là, c'est-à-dire elle parle des militantes féministes hein, qui connaissent très bien la théorie du genre, comment on peut espérer transmettre ces choses-là? Et nous-mêmes, féministes averties, on fait des bourdes avec nos élèves à l'école parce que l'émancipation, elle est sur un temps générationnel et que nous, on est loin d'être émancipés. On a intégré énormément de stéréotypes. Donc, on bosse là-dessus. Il n'empêche qu'on a encore à bosser là-dessus. Il faut se faire violence tous les jours. Voilà, c'est un gros travail. Et donc, c'est un... qu'elles essayent de diffuser aussi, c'est que c'est un gros travail, sans doute pour ceux qui ne sont pas sensibilisés, sans doute pour les hommes qui n'ont pas eu l'habitude de se poser ce genre de questions, mais il faut qu'ils se rendent compte aussi que c'est une violence qu'on doit se faire aussi tous les jours, y compris lorsqu'on est soi-même averti. Alors, ces femmes militantes, comme j'ai pu l'observer, sont des femmes de savoir, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement érudites. Elles lisent tout ce qui paraît sur tous les livres, tout ce qui est issu de la recherche. Donc, contre la violence des éducations féminines, la première chose qu'elles mettent en œuvre, c'est leur propre éducation. Voilà. Elles acquièrent ce savoir. Et ensuite, elles utilisent leur qualité d'enseignante, leur qualité pédagogique, pour le partager et le transmettre. Et elles se font elles-mêmes leur propre sujet d'expérience. Elles essaient donc de dévoiler systématiquement les situations sexistes. Et c'est pour ça que, pour paraphraser Patrick Chamoiseau, qui est théoricien de la créolité en pays dominé, là je renvoie à la domination masculine, elles se comportent en véritable marqueuse de parole. Alors, les enseignantes et l'émancipation féminine, c'est aussi une longue histoire. Les enseignantes engagées vont jouer comme d'un levier sur la longue durée, comme le signale très bien Rebecca Rogers. En effet, elles sont très fréquemment membres des groupes féministes, fondés eux-mêmes par des enseignantes comme Cécile Panisse, institutrice, ou Elisabeth Renaud, elle-même aussi institutrice, qui fonde un groupe donc des féministes socialistes. Les mouvements qu'elles rejoignent sont le plus souvent communistes ou socialistes, et elles sont très actives, comme Jeanne Halvax, professeure de philosophie, féministe, socialiste, et ses entreprises stratégiques très intéressantes à suivre, qu'elle a menées à la Ligue des droits de l'homme et la création donc de la section française du Comité international des femmes pour la paix permanente. Donc, ce qui caractérise ces femmes, c'est que le fait d'avoir donc évidemment appris à lire et plus que ça, donc maîtriser une des rares professions qui leur était ouverte pour échanger de façon correcte contre un salaire correct ce diplôme, c'était la profession d'institutrice. Voilà. Alors, cette éducation se poursuit, y compris dans des situations extrêmes. Et donc là, je vais achever ce petit tour d'horizon par l'exemple de Marguerite Buffard-Flavien, qui est professeure de philosophie, qui a exercé à Caen. Il faut savoir qu'au moment où elle a présenté l'agrégation de philosophie, c'était sur dérogation parce que les filles n'étaient pas capables d'abstraction pour faire de la philosophie. Au milieu, si vous voulez, des archives du Métron, j'ai exploré la fiche de Marguerite Buffard-Flavien parce qu'elle était enseignante. C'était une enseignante de philosophie et que j'ai pu découvrir en explorant ses archives personnelles, qu'elle va avoir une action pédagogique, y compris dans des conditions particulièrement difficiles. Donc, elle va être pédagogue en tout lieu. Et ça, je le vois à travers ses lettres que j'analyse, etc. En tout lieu, avec tout le monde, donc sa famille, son conjoint, partout où elle est. Et y compris donc quand elle va être emprisonnée. Et donc voilà un de ses cours que j'ai retrouvé, un feuillet que j'ai retrouvé dans un de ses livres de Kant, qui s'intitule « Cours la femme moderne ». Et donc elle expose le double idéal féminin, le travail et la politique. Et là, on rejoint tout à fait la question de la politique. Et donc dans ce cours, elle explique aux prisonnières qui sont avec elle à Mérignac qu'il faut lutter contre l'idéologie de l'amour romantique et de la femme décoration, y compris la femme bourgeoise. Il faut lutter contre la misère des autres, et donc la solution c'est le travail. La femme doit obtenir son salaire et son indépendance par le travail, mais aussi elle doit se mêler de la politique. Alors, le travail cité sous le titre donc normes scolaires et valeurs féminines, là j'avais exploré comment les candidats à l'UFM, avant de devenir enseignants, étaient porteurs ou non de stéréotypes sexués. Donc je l'ai fait à Caen, sur un échantillon représentatif de 1000 candidats. Et surprise, parce que les candidats à l'UFM ont un profil quand même particulier, c'est-à-dire ce sont des élèves réussissants, hein, ils arrivent, ils ont bien réussi dans le système, ils ont subi la sélection, et il y a une proportion, on le sait, hein, tel père, tel fils, la reproduction des enseignants par eux-mêmes, donc on sait aussi qu'il y a une proportion d'enfants d'enseignants importants. Or, dans un autre travail que je ne cite pas là, mais que j'avais réalisé avec Alain Léger, on avait pu voir que les familles enseignantes étaient des creusets familiaux favorisant l'égalité des sexes pour le devenir de leurs enfants. Donc, j'avais toutes les chances, en fait, dans les années 2000, de rencontrer peu de stéréotypes sexués. En tout cas, c'était une de mes hypothèses. Eh bien, ça a été une erreur. En tout cas, les faits ont démontré que non. Hein, c'est encore très, très présent. Donc, dans un autre travail, le choix d'enseigner l'affirmation de valeurs sociales, là, toujours d'un point de vue sexué, mais cette fois-ci, je regarde les enseignants dans leur rapport au travail, dans leur profession et dans leur rapport au travail. Et là, je démontre que c'est une profession parmi les autres qui est une profession favorisante pour l'égalité entre les sexes. Alors, non seulement j'ai beaucoup de témoignages d'enseignants qui disent, enfin d'enseignantes et d'enseignants, qui disent, alors il y en a surtout qui reviennent, enfin qui ont été, qui ont fait d'autres professions et qui se sont reconvertis. Bref, c'est une profession où ils disent, il y a des femmes qui disent, je ne suis pas en but au machisme en comparaison au secteur privé. Et par ailleurs, dans le cœur du métier et la façon dont il fonctionne encore, hein, ça peut être défini, il n'y a pas de concurrence entre collègues. Ce qui n'est pas vrai à l'université, mais là, donc c'est vrai pour le premier et le second degré. Et donc, ils trouvent des conditions plus favorisantes pour exercer à la fois dans leur profession, mais aussi dans leur vie privée, une répartition plus égalitaire dans les couples. Et aussi, les hommes enseignants disent beaucoup apprécier pouvoir avoir du temps pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Donc, il y a quelque chose dans cette profession qui fait que ils ont choisi cette profession aussi pour des questions de valeur. Donc, tout ça fait que c'est important de le rappeler et de ne pas rester que sur la mise en lumière des stéréotypes qui sont encore très forts. Donc voilà, et puis c'est tout.
Hein. C'est déjà pas mal.